Bruxelles arrive. Auditrice, auditeur, bonsoir. Nous sommes le lundi 18 janvier. Il est 20h. Vous êtes bien sûr Radio Judaïka 90.2 sur la FM et sur radiojudaïka.be. On joue la prolongation.
En retrait pour Giresse, la tête dans le paquet. Et reprise, c'est... Goal !
Goal !
Vous l'avez dit !
Oh ! Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Pouf, vous êtes un salaud !
Très heureux de vous retrouver ce soir, encore une fois, avec moi ce soir, bien sûr, les plus grands, les meilleurs chroniqueurs sportifs de la bande FM quasiment, hein, j'imagine que vous êtes tous d'accord avec moi. Et oui, alors si comme son équipe, il est ce soir le meilleur dans le studio, on lui souhaite en tout cas pas de perdre, hein, puisque on se dit bonsoir Blaise van der Linden.
Bonsoir à tous, je suis très ravi d'être ici et effectivement, quitte à perdre contre le dernier, autant perdre dignement.
Bon, oui, on va en parler, l'Olympique de Marseille bien sûr, avec nous ce soir également... Une musique de champion, mais alors ses analyses à lui ne manquent jamais d'efficacité, contrairement à son équipe de cœur. Bonsoir Henri Daniel.
Bonsoir. C'est un compliment.
Écoute,
je prends.
Bon, ça laisse une marge de progression, en tout cas.
On va dire ça. Bonjour à tous.
Alors, lui n'a pas besoin de changer d'entraîneur. Pour être vainqueur de tous ces pour être le vainqueur de ces débats enflammés, c'est un rouge fier qu'on retrouve ce soir. Bonsoir Steve Gris.
Bonsoir Samuel, bonsoir Blaise, bonsoir Henri. Ah. En mode Champions League. C'est là.
Est-ce que tu brûlerais pas un peu les étapes?
C'est la DM dans Supporters du Standard.
Calmons-nous. Écoutez, ravi donc d'être avec vous ce soir au programme. Eh ben, on va débriefer un petit peu le week-end, voir tout ce qui s'est passé en football. On va commencer bien sûr par la Belgique. On parlera de tous ces belles rencontres qui se sont déroulées cette semaine. Le championnat n'arrête pas de bouger. Bon, il y a un pilier, c'est le FC Bruges qui trace sa route. Mais après, c'est vrai qu'on risque d'avoir une bataille acharnée jusqu'à la fin de la saison pour les trois autres places qualificatives pour le play-off. On a vu un week-end perturbé par les conditions météorologiques. Enfin, en tout cas, les conditions météorologiques étaient dures. La journée de championnat n'a pas été perturbée du tout, puisque tous les matchs se sont joués. On en parlera aussi. Après ça, on ira faire un tour outre-Manche, outre-mer du Nord d'ailleurs aussi. On ira en Première Ligue, puisqu'on parlera de tout ce qui s'est passé ce week-end. Il y avait le grand match au sommet Liverpool-Manchester United, mais on s'arrêtera surtout sur, encore une fois, la magie qui est sortie des pieds de Kevin De Bruyne, qui a permis à son équipe de l'emporter. On en reparlera tout à l'heure. On parlera de l'Italie également, un petit peu un tour en France où la tête du championnat est maintenant pour le Paris Saint-Germain. Et
virtuellement ?
Virtuellement, c'est quatrième. Ou sixième. Non, ils sont sixième, virtuellement quatrième. Ça, on en parlera.
Fait un classement virtuel.
On en parlera avec Blaise. On reviendra un petit peu également sur l'Espagne, où il n'y avait pas de journée de championnat, mais il y avait la Super Coupe d'Espagne. Vraiment, c'était important. Et puis surtout, c'est très important de mettre des demi-finales et une finale, puisque contrairement au Trophée des Champions, par exemple, en France, qui s'est joué cette semaine, et bien là, il y avait une demi-finale, une finale. Écoutez, on va parler de tout ça, on va parler aussi d'autres choses. On parlera d'un épisode qui s'appelle, en Europe, on appelle ça souvent la guerre du football. Et en Amérique du Sud, ils n'aiment pas tellement ça. Ils appellent ça la guerre des 100 heures. 100 heures. Le chiffre 100. Je vous raconterai cette histoire qui s'est déroulée, qui mêle football et histoire avec un grand H. En prélude à la Coupe du Monde 70 au Mexique. On en reparlera tout à l'heure.
Bien me dire. Et, ah, tu éveilles mon intérêt, là.
Ah, voilà, bah, c'est ça, je tease un petit peu. Une histoire passionnante, et qui a fait grand bruit à l'époque, mais donc qui est un petit peu passée sous, dans le, l'ombre, ces derniers temps. Écoutez, on va en parler. Avant ça, le coup d'envoi. Ça y est, c'est parti. On va commencer par la Pro League, et je vous propose de commencer par le Berscott contre le FC Bruges. 0-3 pour le FC Bruges. On avait imaginé la semaine dernière, en parlant de cette nouvelle recrue Bas Dost, ce que pourrait être l'attaque et les dégâts que l'attaque du FC Bruges pourrait causer, avec notamment le trio Charles de Ketelaere, Noah Lang et Bas Dost. Eh bien, ce trio a frappé. D'ailleurs, quasiment sur la première vraie belle action, Dost va marquer à la 15e minute un enchaînement superbe avec les trois, même les quatrièmes mousquetaires de l'attaque, le quatrième technicien Crépin Diatta qui avait dézonné, qui s'est retrouvé sur la gauche, une très belle combinaison, Diatta, Lang, De Ketelaere et Dost. Lang a donc donné ensuite un assist pour Kosunu sur une frappe déviée. On a eu droit aussi à un très grand Simon Mignolet sur plusieurs phases de jeu, et notamment un arrêt fantastique à la 69e minute. Le FC Bruges l'a emporté 3-0. Ce que je disais en préambule, c'est que c'est vraiment la seule valeur sûre, enfin qui a pas l'air de vraiment connaître les hauts et les bas. Je pose la question comme ça, mais est-ce que vous pensez que quelqu'un peut vraiment, à ce stade de la saison, venir perturber le FC Bruges?
Ils sont beaucoup trop sûrs de leur talent, et on en avait parlé pendant les 6 premiers mois, il leur manquait un 9. Et maintenant, le but que met Bas Dost, il touche cette balle avec le bout de son pied.
Ils n'avaient même pas besoin de ça pour dominer le classement.
C'est ça. Alors, des épaules, alors, hein, maintenant, voilà. ils ont tous les. Et puis le match de Mignolet aussi encore. Mignolet. Je pense qu'on l'a, on l'a un peu provoqué.
J'ai entendu Didier la semaine passée, mais non, parce que Mignolet a fait. D'abord, c'est un excellent gardien, c'est pas la question. D'accord. Mais il faut pas oublier qu'il a fait quand même 2-3 petites bourdes. Moi, j'ai pas 2-3 petites bourdes pour Arnaud Bodard.
Ah, c'est vrai.
T'as même un but.
Je pense que Mignolet. Il y aurait même un but, en raison. Je pense qu'intrinsèquement, Mignolet est évidemment à ce stade bien meilleur que. Pas bien meilleur, mais meilleur que Bodard. Mais par contre, Mignolet, il faut bien avouer, au début de saison, a fait 2-3
petites bourdes. Ouais, il était pas sûr.
Du pied, notamment. Mais ça enlève rien que c'est. Voilà, c'est le meilleur gardien du championnat.
C'est le meilleur. Je veux dire quelque chose, tu as cité 3 noms. Et y a, dans les 3 noms que tu as cités, tu n'as ni Vormer ni Van Aken, qui étaient en début de saison. On s'est dit, ça c'est le truc, ça fonctionne, les yeux fermés.
Et Ritz aussi.
Et Ritz. Centre de Vormer pour la tête de Van Aken, et c'est
absolument.
On est champion. Et il y a ces trois-là qui ont réussi, Van Ketelaere, Dost et Lang qui ont réussi à prendre le match en main, quoi. C'est assez impressionnant.
Oui, là je pense qu'on est parti pour une hégémonie brugeoise, mais finalement ce n'est rien d'autre que ce qu'on avait dit en début d'année. C'est une confirmation. Et là où on peut s'inquiéter, c'est qu'ils sont encore un peu plus forts.
Ouais, ils sont encore meilleurs, c'est ça qui est impressionnant.
C'est pour ça que
d'année en année, ils recrutent des joueurs, par exemple, comme Lang ou Dost, qui sont des joueurs impressionnants.
En ne perdant quasi rien.
En ne perdant quasiment aucun joueur.
C'est la seule équipe qui ne perd pas de joueurs. Et qui fait des transferts qui sont une véritable.
Et les seuls jeux,
c'est beaucoup quand même.
Joueurs qui perdent, c'est des joueurs qui, à la fin de leur passage à Bruges, plombent complètement l'équipe et du coup ne servent plus à rien. Donc au final, c'est pas une grande perte.
Il y a une super équipe de recruteurs.
Il y a Kremenčić, c'était quand même pas un succès.
Voilà, ils s'en sont débarrassés effectivement. Il peut pas ne pas y avoir de loupé parfois, mais c'est vrai que
ils dominent à tous les étages.
De Ketelaere,
sportivement, administrativement, en termes de recrutement, la chance, parce qu'il faut quand même laisser la chance tout de même, c'est que il va y avoir des playoffs. Je pense que les points vont être encore divisés par deux. Alors ils ont eu un début de championnat qui était un peu moins bon, et puis depuis, ils surfent dans le très haut de la vague, mais on peut espérer encore un petit coup de mou qui permettrait un tout petit peu de niveler, et donc de recréer un peu dans cette compétition tout de même
d'intérêt
ils vont reprendre l'Europa League, et ils ont des chances en Europa League, donc au plus loin ils vont en Europa League, au plus les équipes belges ont leur chance de rattraper un peu le retard qu'ils ont pris dans les dernières semaines.
Mais là on a toujours mis en avant ces dernières semaines le fait qu'il y a dans le championnat belge, dans d'autres, mais dans le championnat belge, en tout cas, c'est vraiment flagrant. Aucune équipe n'arrive à vraiment avoir une certaine stabilité dans ses résultats, sauf le club de Bruges. On l'a encore vu ce week-end,
ouais,
où tous les autres ont perdu. Ben, l'écart va commencer à sérieusement se creuser. Hein.
C'est vrai que l'écart commence à se creuser. Henri, tu disais qu'on parlait de Vormer et Van Aken en début de saison. On n'en parle pas. Là, on n'en a pas parlé. Van Aken est suspendu. Il était suspendu. C'est quand même le double soulier d'or.
On n'a même pas remarqué, quoi.
Voilà, on n'a même pas remarqué.
C'est ça, c'est
et moi,
c'est
ce qui
ça,
m'impressionne par rapport à eux, je rebondis ça là-dessus. Moi, ce qui m'impressionne dans cette équipe aussi, c'est ils sont les mieux armés dans toutes les catégories de joueurs. Ils ont, si vous voulez, les talents purs. J'ai l'impression que, entre les trois de devant, Lang et De Ketelaere notamment, Bas Dost, c'est un talent différent, mais voilà, il manquait un avant-centre. Il semble qu'il l'ait trouvé. Et les joueurs de devoir, ou en tout cas les vieux, les grognards,
les soldats,
les Vormer, les Ritz, qui sont pas aussi à l'aise techniquement, mais qui, voilà, forment une ossature assez forte.
Et même, enfin, quand on voit le troisième but, la passe de Vormer, elle est magnifique. Donc, il est pas techniquement légal, mais je veux dire, pour la transmission entre la défense et l'attaque, c'est le type de joueur parfait, quoi.
Tout à fait. Non, il y a vraiment une équipe complète. Et tu le disais, Blaise, en Europa League, ils ont, avec l'ajout, l'apport de Bas Dost, ils ont sans doute une chance.
Mais c'est assez excitant. C'est assez excitant pour nous tous de se dire qu'on va soutenir une telle équipe.
Une telle équipe, c'est vrai. Parce que
quand on voit les résultats de la Lazio, c'est ce week-end qui a quand même 3-0 dans le derby à la Roma et que Bruges est vraiment passé à deux doigts de l'exploit.
Bon, certains chroniqueurs qui ne sont pas là ce soir prétendent que c'est un mal pour un bien que de ne pas être qualifié pour la Ligue des Champions.
Oui, mais c'est intérêt à la gagner alors son Europa League.
Voilà, mais écoute un bon parcours, en tout cas, c'est vrai que ça égayerait le
mais ils mettent la barre très haut, et c'est vrai que Didier, qu'on salue, lui est très très exigeant lorsqu'il parle du club de Bruges. Moi, je me suis confronté très amicalement à lui à plusieurs reprises en me disant, finalement, en championnat belge, on est déjà content, peut-être me basant sur mon expérience personnelle, on est content d'avoir déjà des résultats. Mais là, je pense qu'il peut être heureux parce qu'il y a la manière, parce qu'il y a du fond et il y a vraiment de l'avenir.
Ouais.
Alors, sur cette équipe du Berscott, on pourra peut-être dire aussi deux, trois petits mots qui justifient peut-être ce qui s'est passé.
Bah, on va le dire, on va en parler tout de suite. Ça a un petit peu tourné entre nous. Enfin, j'en ai parlé avec Didier notamment sur cette nouvelle mode. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais du départ de l'entraîneur. Avant, les entraîneurs, ils partaient uniquement quand ils étaient virés. Et là, je crois que ça fait le troisième de la saison en Belgique qui quitte son club pour accepter un autre challenge, parfois pour mettre sa famille à l'abri, comme certains le disent. Et donc là, Losada, puisqu'il s'agit de lui, à le coach du Berscott, celui qui a ramené le Berscott en D1A, a décidé de quitter le club pour rejoindre la Major League Soccer et entraîner l'équipe de Washington, les DC United. Il était désolé.
Oui, son interview était.
Ouais, je pense pas qu'on puisse mettre ça en doute. Désolé
du timing, en fait.
Voilà, c'est ça. Comme la saison américaine commence en mars, eh ben il fallait qu'il parte pour être prêt pour sa nouvelle équipe.
Mais on peut pas le blâmer. Il reçoit une proposition. Il a jeune entraîneur. Il reçoit une opportunité comme ça.
Et puis la Major League Soccer, c'est pas comme pour un joueur. C'est-à-dire que vous allez jouer là-bas, vous vous enterrez à peu près. Là, pour un entraîneur, je pense que ça, c'est aussi un beau travail. Là-bas, ça permet d'avoir une certaine exposition.
S'enterrer vu d'ici, parce que vu de là-bas, c'est des stades pleins. C'est...
Oui, non.
Mais moi, je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Henri. Oui, c'est peut-être pas, parce qu'on avait employé le terme de. Je l'avais dit, le terme de mercenaire en parlant de l'écho, qui part là clairement dans une compétition sans aucun intérêt. Là, il ne part pas dans une compétition sans intérêt, mais avec un intérêt quand même. Voilà, je trouve un peu
c'est
limité.
C'est principalement pécunier, l'intérêt.
Et puis, il y a une question de loyauté. Enfin, je sais pas, je suis vieux jeu pour ça.
Non, j'entends bien.
Mais là, il part vraiment d'une semaine à l'autre en laissant... alors qu'on lui a fait confiance de bâtir tout un projet.
C'est vrai.
Je trouve ça vraiment dommage.
Ça l'est peut-être, mais moi, c'est un entraîneur qui a quand même pris l'équipe en D1B, qui l'a monté, qui en a fait l'une des attractions et l'une des belles histoires du début de championnat. Il la laisserait à la 14e place avec une série de défaites incroyables. On pourrait dire là il s'en va vraiment au même moment.
On dirait il s'en va avant qu'il se fasse virer.
Il peut tout se passer. Bon, mais ils sont 8e, le Berscott, ils ont proposé du jeu. On espère tous qu'ils vont pas s'effondrer avec le départ de leur entraîneur, mais je comprends que tu parles de la loyauté, mais c'est vrai que là...
Je sais qu'on est un peu biaisé dans ce monde du foot où finalement, ça nous paraît pas anormal, mais je trouve que quitter le navire en plein milieu d'un projet, d'un jour à l'autre, moi, je sais pas, j'arrive pas à m'habituer.
Moi, je suis un peu d'accord avec Steve, parce que j'estime surtout qu'en fait, très bien pour un entraîneur, il a peut-être un peu plus de visibilité aux États-Unis, mais il va tomber dans un championnat qui est assurément plus faible que la Pro League, ça on en est sûr parce que ça joue pas bien au foot aux États-Unis. Et là, le fait de rester en Europe et potentiellement d'arriver en Europa League l'année prochaine peut-être, parce que cette année ça avait l'air d'être un peu mort, mais ça lui offrait une toute autre exposition. Et même en Belgique, on sait qu'il a joué ici et que donc il y a des clubs qui auraient pu lui offrir un poste d'entraîneur ici, si par exemple, je sais pas, Compagnie se foirait ou Mbailey. Enfin, il aurait pu. Au hasard, non, mais parce que c'est les grands clubs.
Non, mais
que, évidemment, Albert Scott, on va pas l'envoyer à Saint-Tron, tu vois.
Faut pas se méprendre. Ce que je dis, ma remarque, elle est plutôt réaliste, quoi. C'est le football actuel, le mec.
Ouais. C'était
plus dans ce sens-là. Mais je
comprends qu'il y pense à deux fois. C'est, voilà.
Bien sûr.
C'est l'argent et il s'enterre pas en Chine. C'est pas désagréable d'être aux États-Unis, le championnat. Non. Et certes, pas extrêmement relevé, mais enfin, c'est pas non plus.
Il a pas de problème avec les managers et la justice.
Il avait, oui, contrairement à ceux qui partent s'enterrer en Chine. Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai qu'en plus, il va croiser des anciennes gloires, mais il y en a plein en Chine aussi. Mais
plus trop maintenant.
Il y en a plus trop, oui. C'est vrai qu'il y a.
Ils ont un peu resserré la vis sur les gros salaires d'anciennes stars maintenant, les Chinois.
Alors qu'il y a d'anciens très bons joueurs en MLS, qui ne sont pas forcément de très bons entraîneurs. Non, mais...
il va arriver dans des structures qui sont quand même autre chose que le Berscott.
Oui, oui.
Les conditions de travail, peut-être.
Bien sûr.
Non, mais je suis d'accord.
L'encadrement, etc. Donc,
moi, je le blâme moins que l'écho, mais
bon. Pourquoi, après, à cause de la destination.
Ouais, je pense à cause de la destination, parce que c'est un championnat qui est quand même un peu exposé, les États-Unis. Alors, quand je dis un peu exposé, ça veut dire que ça a une capacité à attirer des joueurs d'un meilleur niveau. Partir en Chine, c'est vraiment partir à l'autre bout du monde. Et donc, s'enterrer un petit peu, c'est une fin de carrière. La Major League Soccer, il y a un côté excitant aussi, comme tu l'as dit, c'est les États-Unis. Donc, il y a quelque chose d'excitant là-dedans. Après, on ne sait pas, peut-être qu'il y a une indemnité versée pour compenser son départ à Berscott. Peut-être qu'il est prévenu, le Berscott a été prévenu depuis un certain temps.
Il y a un contrat.
Rupture de contrat, j'imagine.
Oui, oui. Hein, donc, bon, je veux dire par là qu'effectivement, en fait, je pense que le timing de l'annonce n'a pas été peut-être celui que lui voulait, parce que ça a été révélé juste avant le match.
Oui, je ne dis pas qu'ils auraient gagné contre...
Voilà.
Je ne dis pas qu'ils auraient gagné forcément, mais... Mais bon, c'est plutôt déstabilisant.
C'était déstabilisant, ouais.
Quand on sait en plus
surtout
que
Bruges.
Quand on sait que la défense, en plus, c'est pas forcément leur point le plus fort. Voilà, il y a besoin d'un gros mental contre la tête du championnat.
Bon, et un dernier mot sur ce match et sur Mignolet. On en a parlé, hein, mais moi, c'est cet arrêt qui est fabuleux. Hein. C'est 69e minute, il y a une frappe de Nubici. Et en reculant, parce qu'il est bien avancé, et il réussit à se détendre pour mettre juste la petite claquette touchée pour la mettre au-dessus.
Parce que là, ça se joue à la détente et au timing.
Et au timing.
S'il est une demi-seconde trop tôt ou trop tard, il a...
Parce qu'au final, ça se voit, il est aussi surpris que nous que Nubici frappe. Ouais. En fait, personne s'attend à ce qu'il frappe. Et il envoie une espèce de retournée.
Ouais, c'est...
Je crois qu'il a envoyé un message aux gens qui ont voté pour le souligner.
Il n'était pas content.
Mais c'est moi, j'ai lu une interview il y a quelques semaines de lui. C'est un gars très très humble.
C'est ça.
C'est un gars très intelligent qui a fait toute une formation, etc. Ouais. Qui m'a maintenant investi dans du café parce qu'il est assez fan de café. Et c'est quelqu'un qui a tout à fait les pieds sur terre. Il en veut pas du tout à Klopp. Il considère que Klopp c'est le meilleur entraîneur du monde. Alors que bon, voilà. Il considérait que son concurrent, il était peut-être pas plus fort que lui, mais c'est un vrai gentleman, c'est vraiment un chouette joueur.
Ils auraient peut-être gagné là.
Qui a une super carrière, qui aurait pu encore avoir, à mon avis, encore quelque chose au-dessus, et qui a eu l'humilité de revenir en Belgique, mais avec un choix extrêmement intelligent, et qui fait une superbe fin de carrière.
Moi, je pense qu'il vaut mieux être titulaire dans un club comme le FC Bruges, plutôt que d'être remplaçant au mieux. sur le banc de Liverpool.
Mais il a fait les deux.
Il a fait les...
C'est ça.
Oui, il a joué.
Années. C'est vrai que
voilà, il a joué à Sunderland.
À Liverpool, il était titulaire pendant 2-3 ans.
Ouais. Et c'est vrai
non, bravo.
C'est Karius qui l'a. Comment il s'appelle Karius?
Karius. Loris Karius.
Voilà,
l'homme au gant
de pêche. L'homme au gant de pêche. Le gant en peau de pêche.
On vanne.
Allez, on reste à Bruges, mais le Cercle, cette fois, qui recevait le Standard. On est ravis de pouvoir en parler avec Steve.
Vous pensez donc comment moi je suis ravi.
J'imagine bien. C'était Mbaye Ley avait reconduit le même 11 que contre Westland Beveren la semaine dernière, avec notamment, et ça c'est un signe fort, Carcella en capitaine de l'équipe. Et le match va démarrer de la meilleure des manières, une belle interception de Raskin qui donne en profondeur pour Lestienne sur la gauche, il a juste le gardien et ça fait 1-0. Il y aurait une tête sur la barre pour le Cercle de Hugbo. Baudard a eu un petit peu de travail, il a bien fait et l'intensité a commencé à être un peu plus importante de la part du Cercle de Bruges. Est-ce que Steve, tu es d'accord pour dire que
l'important
c'est les 3 points.
C'est ce qu'ils ont tous dit. Hein.
C'est ce qu'on dit.
Ils ont tous dit, mais on en parlait, moi je suis assez d'accord. Enfin, je pense à la même chose, on en parlait avec Henri avant hors antenne. C'est... Voilà, on va pas fanfaronner, hein. On gagne contre la lanterne l'avant-dernier, au cours d'un match où si c'était match nul, personne n'aurait rien trouvé à redire. Mais le Standard avant le Nouvel An a perdu contre les trois derniers, ils ont fait 0-9.
Donc s'ils
avaient joué comme ça leurs trois matchs avant, c'est comme si Anderlecht, les matchs duraient 80 minutes.
Hein. Ouais, tout à fait.
Donc finalement, on doit pouvoir se réjouir de ce 6-6 contre Westland et contre le Cercle.
Et pas tirer des conclusions, hein,
mais voilà. Alors après, qu'il y ait une dynamique positive, c'est bien. Qu'il y ait des choix symboliques effectués, c'est aussi une bonne chose. Parce que Carcella, capitaine, voilà, on sait parfaitement que c'est un choix symbolique, ça ne change pas grand-chose. C'est pour Mbaye Ley marquer sa patte et dire à Carcella, je te donne les clés de cette équipe. Maintenant, à toi de me prouver ce que tu vaux.
Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Il y a une belle... En fait, il a un travail de facilitateur, parfois. Il met l'huile dans l'engrenage du jeu. Il y a une belle action au retour de la mi-temps, je crois, où il y a une belle transversale du Seine sur Pavlovic à droite. Il y a un beau relais avec Carcella, un 1-2 dans la profondeur.
On connaît tous les qualités de Carcella. C'est même plus un débat, mais je pense que principalement ce dont il a besoin, lui, c'est de se sentir aimé. Et entre guillemets, enfin, quand je dis se sentir aimé, c'est sentir les responsabilités qui lui sont données. Et quand on le fait rentrer 10 minutes comme Montagnier le faisait, je pense que lui, il a aucune envie. Enfin, je vais faire une comparaison avec quelqu'un que je connais très bien, c'est Dimitri Payet. C'est exactement la même chose. C'est des joueurs qui, si tu les fais rentrer 10 minutes, ils vont servir à rien parce que ils sont pas des joueurs qui vont mettre un pressing intensif. C'est juste des mecs qui ont besoin de jouer 90 minutes et qui vont lâcher 2 assists, 1 but. Ça va pas être course sur course, mais comme tu dis, ça va être un facilitateur. Il va prendre la balle, il va mettre des balles en profondeur, et c'est ce dont le Standard a besoin, j'ai l'impression.
Oui.
Moi, je crois que c'est ça le message de Mbaye Ley. Quand il donne le brassard, il dit « Je sais ce que t'es capable de faire ». Avant que tu le fasses, je te donne déjà le brassard. Je sais
que t'es capable. Il met en confiance, quoi.
Vous savez, avant le début du match, je regardais sur mon téléphone, je regardais la composition des équipes et comme tout supporter du Standard, après une victoire, et puis on sent que le 6-6 est proche, je me suis mis à rêver. Je trouvais que cette équipe, alors je ne change pas ce que j'ai dit, hein. Cette équipe, c'est pas une équipe pour être champion, mais je trouve que sur papier,
c'est une belle équipe.
C'est une équipe avec des noms qui sont chouettes, assez offensifs, avec des petits jeunes qui donnent envie de ce petit Siké là en arrière droit, ce Raskin et même ce Pavlovic en back gauche qui est rentré en cours de match. Sébastien revient un peu. Je trouve qu'il y a vraiment, je me suis surpris à m'enthousiasmer de nouveau après cette victoire.
Ah, ça fait plaisir.
Quand tu vois cela, et de me dire, ok, on a peut-être pas une équipe comme Bruges, mais il y a une équipe où si ça joue, où si tout le monde est en forme, il peut y avoir un peu de jeu et peut y avoir des résultats qui suivent. Et on va voir. Et cette dynamique positive, qui est finalement le seul enseignement qu'on va retenir de ces deux matchs, Westland, c'était pas laborieux, mais aussi les circonstances étaient quand même plutôt favorables. certes, c'était laborieux, mais on a forcé le résultat. Là, lorsqu'on va avoir un vrai test pour le quelques vrais tests pour le standard, avec en quelques jours de temps, on joue à Malines qui je pense sort d'un 12 sur 12 ou d'un 15 sur 15. Malines, et puis Charleroi, le fameux derby où on a attendu au tournant. Donc là, clairement, je pense qu'on pourra faire un bon bilan, un premier bon bilan après ces deux matchs, plus qu'après ces deux premiers matchs qui n'ont eu pour vocation ou pour effet que d'instaurer une dynamique positive. Et si ça a déjà eu ça, tant mieux.
Hein. Moi, je trouve que, enfin, juste, c'est un peu superflu comme remarque, mais je trouve qu'il a,
il a quelque chose
à Mbaye. Genre, je trouve qu'il a la classe. J'avais fait la même remarque sur Company il y a deux, trois semaines. Je trouve que son petit pull bleu avec sa veste noire, c'était vraiment cool. Ouais. Plus que Montagnier qui était là avec son écharpe en mode c'est l'hiver, j'ai super froid.
Du coup, t'as mis une veste de training du standard.
Exactement.
Non, mais c'est vrai que ça fait une. C'est le body language.
Exactement,
est important.
Il dégage quelque chose.
Il dégage un capital sympathique.
Exactement, exactement.
Très, très fort. Hein.
Et puis, moi, j'ai trouvé dans son interview d'après-match qu'il avait été parfait, enfin, en disant. Il a reconnu que tout n'était pas parfait, qu'il y avait justement que c'était un match où il fallait souffrir, et d'ailleurs, il en tire. Il pense en tirer un profit en disant voilà, ce sont ces matchs-là qui forment et qui forgent le caractère d'une équipe. Et c'est vrai qu'on dit souvent on souffre ensemble et c'est la souffrance qui va permettre de transformer les choses.
Oui, de nouveau, parce que la pièce a tourné du bon côté. Hein. Si
c'est ça.
Un des deux bas transversales va dedans.
Exactement.
On parle autrement.
Ouais.
Mais c'est vrai, mais il est très bon dans les médias. Il était consultant. Et c'est vrai que ça fait partie de ces gens. Quand il était joueur déjà. C'était pas le joueur le plus talentueux, mais il dégageait quelque chose pour ses coéquipiers, il dégageait quelque chose pour les supporters. Comme consultant également. Il était très apprécié. Et je pense que c'est le meilleur choix qui a été fait, vu le budget du standard, parce que c'est un gars qui plaît. Et c'est un gars qui connaît le football.
Alors, il y a on a dit depuis quelques semaines qu'il manquait dans les trois grands clubs un avant-centre. Quand je dis les trois grands clubs, Bruges, le standard, Anderlecht, vous choisirez l'ordre. J'ai dit comme ça m'est venu. On sait que le Bruges a trouvé son avant-centre. Est-ce que le standard a trouvé son avant-centre? João Klaus, le Brésilien.
À voir.
Je connais pas ce joueur. Donc,
non, moi non plus, je le connaissais pas.
Écoutez, moi j'ai fait quelques petites recherches.
Il n'a pas un nom de joueur de samba. Hein.
Non, il a le physique
mixte,
de.
Hein, il est mixte. Hein,
Italo-brésilien, João Klaus.
Oui, il a le physique de Raphaël Holzheiser, hein,
oui,
si vous voulez.
Il a le physique de João Hoffenheim, en fait. Hein.
Voilà.
Il a João Hoffenheim, d'ailleurs.
On n'avait dit pas le physique.
Disons qu'il fait un peu penser à Gabi Heinze aussi, pour les mêmes raisons généalogiques. En tout cas, c'est un Brésilien.
On a changé de rubrique ou on parle toujours de...
Ouais, on parle football. 1m90, 85 kilos. Il est en Europe depuis 2017, donc c'est pas un Brésilien qui débarque du pays. Il a joué dans des climats assez froids, puisqu'il a joué en Finlande notamment. À noter que quand il jouait à Helsinki, il a été champion avec le club d'Helsinki, le HJK d'Helsinki, meilleur buteur du championnat avec 21 buts et même meilleur joueur. Puis ensuite, il a été prêté au LASK Linz en championnat autrichien. Écoutez, il marque partout où il va. Dans les deux clubs précédents, il a marqué 24 buts à chaque fois. Bon, 42 en 42 matchs en Finlande, en 61 matchs en Autriche. C'est pas le Brésilien typique, ça c'est sûr, mais on recherche un avant-centre. Lui, il est massif. Il me semble, j'ai regardé des vidéos. Hein, il me semble pas être doté d'une technique folle. Il a pas l'air rapide, mais il semble capable, c'est ce que j'ai vu sur les vidéos que j'ai pu regarder, il décroche pas mal, il peut jouer en soutien.
Oui, mais il y a besoin, parce qu'il faut pas oublier.
Absolument, ouais.
Faut pas oublier que donc ils ont mis ces deux attaquants de côté, on va pas revenir dessus, mais il y a Tapsoba et Balikwisha, qui sont deux produits du club assez jeunes et assez rapides.
Exactement.
Donc il
n'y avait
pas
ouais.
besoin d'avoir un troisième clone. Il peut, soit il jouera seul, soit il sera en appui de ces
ouais,
deux
flèches
auxquelles il croit. Moi, honnêtement, comme Blaise, je ne connais pas ce joueur. J'ai vu ses stats aussi, donc c'est plutôt parlant. J'aime bien l'idée d'après d'un an et demi. Comme
oui.
ça, on sait que potentiellement, si ça marche, il ne partira pas après 6 mois. Donc, vu égard à la situation du standard, j'ai l'impression que sur papier, ça m'avait l'air d'être un choix intéressant. Il n'y avait pas besoin d'une flèche. Ils en ont.
Non, effectivement. Ouais.
Et des joueurs techniques
joueur.
Aussi, ils en ont des petites techniques, ouais. ils en ont aussi. Donc,
ouais,
il fallait vraiment en fait,
le joueur de surface
contrôle,
qui soit capable
qui dévie les ballons.
Ce qu'ils voulaient avec Oularé, qui n'ont pas eu, oui.
En tout cas, ça, voilà, ça fait deuxième victoire en deux matchs, donc pour Mbaye-Leïd. C'est la première victoire à l'extérieur depuis le 4 octobre. C'est, ça commence.
4 octobre.
Ouais, et un enchaînement de deux victoires.
Depuis le mois d'août. on a souffert.
Montagnier, si tu nous écoutes.
On l'embrasse.
On t'embrasse.
Il n'y a pas une place pour lui comme chroniqueur.
Ah oui, alors je voudrais. Bon, là, c'est
une
vraiment.
Place libérée au Berscott. Hein. Mais Georges Lesquens, ah non, je.
C'est. Le. Est-ce que. Bon, il a joué que deux petits bouts de match, mais depuis qu'Mbaye-Leïd est arrivé, il a joué, alors ce qui n'était plus trop le cas. Eden Shamir, vous savez, l'Israélien qui joue au Standard. Bon, il a joué deux petits bouts de match, il est rentré. Mais est-ce que. Voilà, c'était un joueur qui a été complètement mis de côté. Enfin, il avait pris un rouge aussi, il n'avait pas bien joué. Là, il a fait une belle occasion, il a eu une belle occasion, toute fin de match. Un dégagement de Bodard. Il va au duel fort avec le défenseur. Et il a la. Souvent, quand vous ne jouez pas beaucoup, vous retrouvez le premier joueur de votre équipe face au but, même si vous êtes à 20 mètres, vous tentez votre chance. Et il a eu la lucidité de la remettre en retrait. Bon, la frappe n'a rien donné, mais. Bon, et voilà, donc peut-être que. Ce joueur.
On croyait en lui au Standard, en tout cas c'est Prud'homme qui l'a fait venir.
Ouais. Hein,
donc apparemment, assez technique, on lui a laissé un peu sa chance. Il a très mal commencé son premier match.
Je me souviens, il a fait deux.
C'était contre Waslan Beveren, c'était là qu'il s'est pris un carton rouge.
Il a pris un carton rouge et je crois qu'il avait.
Match, ouais. Ouais, il a fait une erreur. Une belle boulette aussi, ouais. Je pense.
Il a très très mal débuté.
Non, un home goal, je pense. Il commence par un home goal.
C'est ça.
Il a beaucoup de mal à s'intégrer. Apparemment, il est plein de qualités. Espérons qu'il ait un déclic. C'est le type de joueur où il pourrait y avoir un déclic, changement d'entraîneur.
Voilà, c'est pour ça que je disais ça.
Mais en tout cas, il croyait en lui à l'époque Prud'homme. Hein,
ouais. Il est arrivé au mercato dernier, hein, en janvier, je crois. Écoutez, on passe d'un Israélien à un autre, puisqu'on va parler de la Gantoise contre Antwerp. C'était le premier match de Verkotteren sur un banc, enfin sur son banc, puisque la semaine dernière,
il
était en quarantaine. Et donc, je dis pas, on passe d'un Israélien à un autre, on parle forcément de Lior Refaelov, qui a gagné le soulier d'or, donc la récompense pour le meilleur joueur du championnat de Belgique. On en avait parlé la semaine dernière, il y a trois semaines, pardon. Bon, on était d'accord, donc ils nous ont suivis. On avait dit que ça se jouait entre lui et Holzhäuser. Effectivement, ça a été le cas. Ils lui ont rendu tous les honneurs possibles.
Un beau bouquet de fleurs.
Un beau bouquet de fleurs, voilà. Un très beau bouquet de fleurs. On ne sait pas ce qu'il en a fait, mais ils lui ont remis avant d'entrer sur la pelouse. Le match a commencé pour l'Antwerp de la meilleure des manières. Refaelov, justement, n'était pas trop appliqué. Alors, il fait une passe qui est interceptée. Et Beramvand a commencé à faire un bon match, lui qui avait été très mauvais la semaine dernière. Et donc, il a eu pas mal d'interventions et il a été plutôt bon. Donc, sur cette erreur de Refaelov, il y a une balle en profondeur. Il sort très rapidement pour dégager devant Boukhari, un autre joueur qui a été excellent lors de ce match. Boukhari qui va tenter sa chance. Il y a une action énorme. Richie Delat qui loupe complètement un dégagement. Davis, elle revient sur Yaremchuk qui en profite, fait un contrôle moyen. Mais là encore, Beranvan fait une sortie impressionnante dans les pieds.
Ils ont un peu vendangé la Gantoise quand même. Hein.
Ouais,
quand on regarde, certes, il fait des beaux arrêts, mais il y a moyen quand même de s'en sortir un peu plus, notamment sur l'action que tu cites là. Il y a moyen de s'en sortir plus facilement.
Plus facilement,
et ils sont lourds
dans les pieds. Ouais. Et donc peut-être que trop porté par ces divers arrêts dans les pieds, deux minutes plus tard, à la 50e, Beranvan va faire une faute dans la surface. Il accroche un joueur, penalty. À ce moment-là, disons qu'à ce moment-là, la Gantoise domine bien, mais l'Antwerp est pas totalement non plus à la rue, mais la Gantoise domine et Koums va la mettre sur le poteau. Et bien sûr, c'est là que les mouches vont changer d'âne, comme disait Thierry Roland.
Il a dit d'autres trucs aussi. Hein.
il en a dit plein d'autres, ouais. Ils vont marquer, l'Antwerp va marquer à la 75e, un très beau but. Ongla à droite donne à Depo qui remet dans l'axe aux 20 mètres. Et là, il y a une superbe feinte de Ongla qui laisse passer entre ses jambes. Il poursuit son action, poursuit sa course vers l'avant. Derrière lui, il y a Haroun. Et là, tout le monde pense qu'il va frapper et il feinte la frappe pour la remettre à Ongla qui a poursuivi sa course. Donc c'était vraiment une très belle phase de jeu et qui permet donc à l'Antwerp de mener. Berend Van va encore faire des beaux arrêts, notamment à la 78e. Il fait une sorte d'arrêt à la Mignolet, mais un petit peu moins difficile quand même. Mais il fait une claquette et voilà, il a été lui très bon, ce qu'il n'avait pas été la semaine dernière.
Il a bien fait d'écouter l'émission la semaine dernière.
Et non, mais je tiens à souligner Boukari, j'ai trouvé pour la Gantoise.
Ouais.
Très bon. Ouais. Il a pas eu de.
Mais moi, je trouve que j'étais un peu déçu en fait de la physionomie du match parce que quand on voit les deux équipes et quand on voit les deux compos, c'est quand même principalement deux équipes qui attaquent. Et en fait, ils ont pas. J'ai l'impression qu'ils se sont limite neutralisés les deux, quoi. Ça a pas du tout eu l'effet que j'attendais. Et comme je dis, enfin, à part Boukari, l'attaque de la Gantoise, c'était. Enfin, moi, je les trouve. Je sais pas. Il manque quelque chose, quoi.
Eh bien, il manque peut-être quelque chose. Et ils ont peut-être trouvé la solution. Je dis ça en. En plaisantant un petit peu, puisqu'il y a la Gantoise a recruté un joueur qui. Je ne connaissais pas, j'imagine que personne ne le connaissait ici. Il s'appelle Jonas Malede, il vient du Maccabi Netanya, donc un Israélien. Il a été acheté 1,5 million d'euros, visiblement plus un pourcentage à la revente. Il a 21 ans, c'est un Israélien d'origine éthiopienne, né à Kiryat Bialik. Il a été l'auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 14 matchs de Ligat Ahal jusqu'à présent. Une bonne vitesse, une bonne qualité physique, c'est ce qu'on dit les observateurs, et donc un joueur qui va venir compléter l'attaque de la Gantoise. Il a le même agent que Lior Refaelov. Alors on lui souhaite la même carrière, même si voilà, il va suivre le chemin de certains autres joueurs belges.
Doudan,
voilà, exactement.
Mais enfin, lui, il a ses entrées. Il a un peu moins ses entrées en Belgique, mais il a encore un peu.
Bon, enfin, il a
le Celtic lui beaucoup.
Hein. Et oui, et effectivement, puisque la Gantoise a une histoire assez longue de recrutement de joueurs israéliens, et parmi ceux-ci, Rami Gershon, Kenny Saef ou Ofir Ovid Zada. Sont trois joueurs de Doudou Daan.
Rami Gershon qui l'a mis au standard pour commencer.
Voilà.
Ouais. Kenny Saïef était américano-israélien,
c'est ça.
Il a joué à Anderlecht.
Donc,
Il n'a pas joué.
Il est venu, il était salarié d'Anderlecht.
Non, il a peu joué.
Et il y avait un joueur qui s'appelle Or Inbroom qui était sous contrat avec la Gantoise de 2017 à 2020. Voilà, je vois que tout le monde a la même réaction que moi. Et 3 ans.
Ah, mais oui!
Quand il dit sous contrat de 2 jours.
Mais c'est-à-dire qu'il n'a jamais joué.
Parce qu'ils ont des employés, ils ont des gens.
Non, le joueur, il avait un contrat de joueur. Ce qui m'inquiète un peu pour le bon Jonas Malede, c'est qu'ils ont l'air d'avoir un peu le même profil, des joueurs rapides, ailiers. Et lui, il est retourné en Israël. Écoutez, on lui souhaite le meilleur.
Affaire à suivre.
Je pense pas que ce soit. C'est un international U21. Bon, il va venir compléter, mais c'est un joueur de. Ce que j'ai remarqué, j'espère que les recruteurs de la Gantoise se sont pas dit 7 buts, c'est extraordinaire, parce qu'il en a mis 4 dans un même match où son équipe a gagné 7-0. Donc, c'est-à-dire qu'il a marqué
3 buts.
Voilà. Il a marqué qu'à 4 occasions en 15 matchs. Bon. C'est.
J'ai une petite. C'est pas du tout sur ce que tu viens de dire.
Ah mais non, on s'en fout.
Après l'émission lundi dernier, je regardais ne me demandez pas pourquoi, le résumé du match Maroc-Iran de la Coupe du Monde 2018. Et
pourquoi
devinez qui était au goal pour l'Iran.
Il est long ce confinement. Hein,
mais... qui a joué la Coupe du Monde avec l'Iran? Berend Van.
Wow.
Et ouais.
Eh oui,
mais il a fait un ou deux arrêts quand même assez impressionnants.
Ouais. Voilà. Hier notamment.
Et je voulais revenir sur ce que tu disais, l'aspect de défense. Peut-être donc un peu décevant. Faisons attention les prochaines semaines. Faut pas oublier quelque chose, c'est que le nouvel entraîneur de l'Antwerp, c'est Verkotteren. Hein.
Oui, ça.
On n'est plus du tout dans la philosophie qui était poursuivie jusqu'ici. Hein. Donc peu de discipline, de l'organisation.
Les vis derrière. Quoi.
Et un jeu qui risque d'être sérieusement, en tout cas un jeu créatif et offensif qui risque d'être sérieusement bridé. À voir, hein, parce que peut-être qu'il va s'adapter à ce qui a été mis dans le club et mettre sa patte. Mais si vraiment il met sa patte à lui devient plus importante, on risque de voir un autre visage de l'Antwerp. Hein.
Ouais. Henri, quelque chose à dire sur Antwerp?
Il a les coups des franges maintenant, c'est pas comme quand il est arrivé à Anderlecht où il était la marionnette de compagnie. Bon, voyons, mais effectivement, il a quand même déjà fait ses preuves, il a déjà été champion, il a quelque chose à donner. Alors si c'est défensif, c'est défensif, mais c'est...
Ouais, c'est pas...
Il a l'expérience des grands moments, enfin je veux dire, il a des moments intenses.
C'est un très bon entraîneur, mm-hmm. hein. Et puis c'est pas un mec qui met le bus devant. Hein.
Non, par contre,
c'est sa marque de fabrique, c'est d'être
c'est assez classique. Hein.
Voilà, organisé, structuré. Et,
ça va pas être créatif. Hein. Quand on voyait la Gantoise sur un corner se mettre avec trois attaquants, etc. Enfin,
oui, oui.
C'était, ouais, c'était assez, voilà, c'était créatif. Et on ne verra pas ça avec Urquhartone, quoi.
Bon,
faut pas.
Verront peut-être des victoires, c'est bien aussi.
Et des augments, ils ont commencé.
Et des montées au classement. On va aborder un dernier match avant la mi-temps, notre mi-temps. Eupen contre Anderlecht.
Franchement, juste si tu regardes uniquement
les 20 minutes,
mais non. Je veux dire même le résumé total du match, quoi. Il y a vraiment les deux dernières minutes du résumé où il y a Eupen qui a des occasions, sinon c'est tout le match, c'est Anderlecht qui a les occasions, quoi. C'est dingue.
Ouais.
Mais on en a parlé. Un tir cadré, c'est familique, quoi.
Ouais, il y a eu beaucoup, il y a une grosse.
On domine, mais on marque pas. On s'expose soit aux 10 dernières minutes, je m'excuse.
Mm-hmm. Non, vas-y.
Soit on s'expose effectivement à la fin de match, comme il y a eu. Parce que je veux bien que Compagnie fasse des remarques en tant que joueur sur le tacle.
Il y a rouge.
Il y a les deux pieds en avant, il n'y a pas de discussion. Après, 3 minutes après, il peut y avoir une carte rouge pour Peters, mais c'est un autre débat, mais ça n'explique rien. De nouveau, je revendiquais les matchs de 80 minutes, mais. L'antidote à ça, c'est marquer un goal, quoi.
Exactement.
Marquer un goal de plus. Et là, c'est pareil, même c'est un fait de match qui, comme un autre, c'est une carte rouge, ça peut arriver. À ce moment du match, ça doit être 2 ou 3-0. Hein.
Ouais. Il doit y avoir, déjà jusqu'à la 25e minute, je crois qu'il y a 5 ou 6 occasions nettes.
Des vraies occasions.
Des vraies occasions. Une frappe de Kullen qui est bien arrêtée, une frappe d'Enmecha à côté.
Ça va ensemble.
Voilà. Une percée.
Léonaise.
Mais c'est dommage pour ces garçons qui, je trouve.
Ouais.
Ouais, il se bat, mais il sera pas l'attaquant titulaire de City. Comme voilà.
Il a une grande confiance en lui, puisqu'il pense qu'il a les qualités. Enfin, lui, d'être l'avant-centre de Chelsea. De City, pardon.
Moi, je vous dis. Enfin, tu as fini.
Non, vas-y, tu interviens quand tu veux.
Donc, moi, je vous dis. Je vais donner un 11 qui aurait pu être celui du début de championnat. Donc, c'est-à-dire Van Krom au goal, Kompany, Kobot, Mikhailichenko, ça c'est pour la défense, Trebel et Sambi au milieu, Bakali et Verskarn sur les côtés, Toh, Nemecha et Dimata. Belle équipe. Aucun de ces joueurs n'a joué ce week-end. Je veux dire, il y a aussi quand même une certaine... On parlait de régularité, de stabilité. À Bruges, il y avait une ossature qui était en place, on a rajouté des joueurs, mais on a rajouté à quelque chose qui était en place et qui était solide.
Il devient quoi, Dimata?
Dimata, il était sur le banc ce week-end.
C'est quand même incroyable l'histoire.
Et il a un genou en compote apparemment et je sais pas. Il n'a pas l'air de revenir au niveau. Je sais pas. C'est les circonstances parfois. C'est parfois les choix de l'entraîneur. C'est peut-être un changement tactique. Bon voilà. Il y a des blessés évidemment de longue durée comme Van Krom ou Trebel. Sambi aussi. Ouais.
Sambi qui traîne.
Toh qui repart en Angleterre. Dimata qui revient pas au niveau qu'on pouvait espérer de lui. Bakali, qui est une énigme totale dans le football, qui était...
Bakali.
Moi, je pense que Bakali, c'est principalement un joueur surcoté.
Il était extrêmement bon.
Ouais, il était bon, mais il a été bon quoi. Il a été bon 2 ans.
Mais il était spectaculaire parce qu'il avait 18 ans, 17 ans, et qu'on le prend avec en Coupe du Monde, etc.
On l'a pris aussi pour, parce qu'il était, il avait plus son nationalité et qu'on voulait sécuriser.
C'est ça.
On voulait sécuriser le fait qu'il joue pour la Belgique. C'était avant tout ça.
Donc voilà, je veux dire, alors à part ça c'est...
Bon, ça c'est ceux qui ne sont pas là, et ceux qui étaient là. Commençons par le premier dans l'ordre.
Alors il y en a un qui doit...
Wallen Reuter.
Oui, d'abord, bon. Je vais garder le mieux pour la fin.
Vas-y.
Bah lui aussi, il avait un peu des grands pots de pêche.
Ouais. Dire.
Il fait une sortie assez incroyable.
Ouais, le deuxième entre les jambes.
Ouais, il y a des matchs qui sont pas...
Alors c'est le brassard, hein, donc c'est clairement le brassard, parce que Lorenz, qui avait le brassard, prend une rouge, puis il donne ce brassard à l'auteur qui prend 2 goals. Je pense que c'est vraiment le brassard. Le problème d'Anderlecht, c'est le brassard.
C'est le brassard, il faut jouer sans,
soyons sans
capitaine.
Concrets.
C'est vrai, parce que même Trebel était capitaine au début.
Il s'est reblessé, Trebel, lors d'un match amical contre
Lyon. Qu'ils ont perdu. Ouais. Avec une bourde du nouveau gardien qui a été acheté par un Hollandais, un Allemand.
Vas-y.
Donc, il y en a qui doit quand même, pour rester poli, c'est Vlap.
Ouais.
Qui était en moins de 21 la semaine passée, qui commence titulaire, carte rouge et qui on sort Vlap.
On sort Vlap, ouais. Ouais.
Et quand il est sorti, il était vraiment pas content. Mais, ce que je peux comprendre, hein, mais c'est, comprendre. Ça se voyait, mais, quoi.
C'était ça, enfin, il avait eu plusieurs fois sa chance, quoi. Mm-hmm. Vraiment, il était
ouais,
plein de fois, il a eu d'occasions.
Au moins, il sera peut-être pas associé à la mauvaise performance de l'équipe, puisqu'il a quitté l'équipe, le terrain, en tout cas. Et, ouais.
Je suis pas sûr.
Mais c'est vrai que c'est toujours cruel quand vous êtes, il faut refaire une adaptation tactique. Moi, je me souviens de la finale de la Ligue des Champions 2006, je crois, où c'est Lehmann qui, le gardien de but ouais. d'Arsenal qui se ouais, fait expulser ouais. et ils sont obligés de sortir Robert Pires au bout d'un quart d'heure et puis il était complètement abattu, le pauvre. C'était en France, en plus, la finale. Mais c'est vrai que, bah là, le pauvre Vlap, c'est lui qui, il fallait faire rentrer un défenseur, donc il est sorti.
Mais je suis content, enfin, je suis surpris et content que tout le monde semble être unanime sur cette histoire de carte rouge. Parce que moi, je l'ai regardé quand même pas mal de fois, vu que ça avait été critiqué.
Non.
Moi, et ça, ok.
Il peut ne pas. Il aurait donné
la
carte jaune.
Il peut ne pas la donner, mais
c'est pas un scandale.
C'est pas. Enfin, c'est
pas ça. Il a deux pieds décollés.
Il est haut. Hein,
ouais, non, il est complètement.
Il est en ciseaux.
Pour le même prix, il lui casse le tibia, quoi.
Et là, je trouve que Company est. Et m'a un peu étonné parce que bah voilà, il la joue de manière assez caricaturale, entraîneur modèle depuis le début, en disant c'est à moi que vous devez voilà, il en fait des tonnes, il en fait trop. Et là on a senti que l'adrénaline lui a fait retomber les pieds sur terre, totalement normal, en ne parlant à son interview, il n'a fait que critiquer l'arbitre, en disant que l'arbitre les arbitres doivent également s'adapter au football moderne.
Là, il n'y a pas de football moderne.
Je suis déçu de lui.
Je suis d'accord.
Finalement, je préférais le Compagnie un peu caricatural au-dessus de la mêlée.
Même après le carton rouge, hein, parce qu'on l'entend
pendant le VAR.
Il rumine.
Pendant qu'il regarde le VAR.
Ouais, et
on ne peut plus jouer au foot.
L'arbitre. Exactement, il lui dit on ne peut plus jouer au foot. Mais
il vient d'Angleterre. Hein.
Ouais, mais bon, ouais. Non, en Angleterre, pas... c'est rouge aussi, ça.
Je voulais parler pour Eric Dimeco, je crois que c'était normal.
Je voulais juste parler encore d'autre chose. C'est ce qui se passe en coulisses. Je veux dire, on ne sait plus qui est président. Moi, je ne sais plus à qui m'identifier dans ce club. Honnêtement, ouais. Je veux dire, ils viennent de changer. Donc, Jos Denville succède à Karl Van Nietveld. OK.
Aucun des deux n'est connu.
Voilà. Wouter van den Noot a été officiellement confirmé. Je veux bien, mais les gens... Bon, j'ai un peu suivi, OK, mais le supporter lambda, c'est, franchement, c'est complexe. Ouais, il y en a qui est président, il y en a qui est président du CEO. Avant, c'était une ASBL, c'était... vachement plus clair.
Non, mais oui, parce qu'avant, tu avais un actionnariat qui était un actionnariat stable et structuré. Là, clairement, pour le moment, il y a quelques luttes de pouvoir, il y a une vraie instabilité, et la question est qui veut avoir le pouvoir, et surtout qui va remettre un peu d'argent dans le capital. Ouais. Et donc là, pour le moment, on est dans une situation où honnêtement, je trouve que ça va, on en parle
relativement
un peu.
Mais... Ce que j'allais dire, ça n'est pas grondé, parce que c'est quand même le sponsor du Standard qui vient, c'est le président de Vous, et de Baze à l'époque. Qui était sponsor du Standard et qui devient CEO
Anderlecht. Ah, je n'avais pas compris ça. Ok.
Donc,
personne n'arrive à suivre. Hein.
C'est pour ça qu'ils n'ont pas trop communiqué sur le site du Sporting. On ne voit pas l'organigramme, par exemple.
D'accord. C'est incroyable.
C'est particulier.
C'est n'importe quoi.
Voilà. Donc, je sais pas.
Il faut aller lire le Moniteur.
On a fait tellement de bruit quand Marcouk est arrivé. Ça fait tellement de bruit. Et puis là, il se passe des. Enfin, et alors, il commence seulement le 1er avril. Tout ça me semble très confus.
Si c'est le 1er avril, c'est peut-être une blague.
C'est peut-être une blague. Enfin, voilà.
Ouais, c'est vrai que c'est dommage que sur le terrain, si déjà c'est instable en coulisses, et ça l'est, on le sait depuis longtemps, que là, il n'y ait pas eu un peu de...
Et puis, on entend quand même la situation financière, etc.
Mais en fait, c'est grave pour l'avenir. Parce que maintenant, on soit dans une crise sportive qui se prolonge, c'est une chose. Mais quand on n'a pas de vue... au niveau des décideurs les décisions à prendre maintenant pour le futur.
Exactement, il n'y a pas de futur pour l'instant.
Ça hypothèque assez fort les prochaines années. C'est ça qui est angoissant.
C'est la mi-temps. Hein. C'est la mi-temps.
J'avais marqué.
Ouais, je suis désolé, l'arbitre arrête. Il y avait en Coupe du Monde, il y a eu ça, un corner. Zico a mis à retourner, et l'arbitre a sifflé, je crois, au moment où le corner a été botté. Il a marqué et il a dit non, j'avais sifflé. C'est vraiment ça, c'est. C'est pas.
On siffle pas quand un corner vient.
Ça devait être Monsieur Foot. Ça devait être Monsieur Foot. Écoutez, on va faire une petite pause musicale aujourd'hui. Pour ceux qui sont amateurs de pop rock, vous savez peut-être que le producteur mythique Phil Spector est mort en prison en Californie. Il avait participé à pas mal la production de pas mal d'artistes des années 60 et 70. Il a, selon les dires de Paul McCartney, il avait complètement charcuté le Let It Be, puisque c'est contre l'avis de Paul McCartney qu'il avait produit l'album. Bon, ça c'est chacun son opinion. En tout cas, il a produit pour un autre Beatles qui s'appelle George Harrison une chanson, un album, et la chanson c'est All Things Must Pass. Je vous propose d'écouter ça, on se retrouve d'ici 3 minutes environ. All Things Must Pass, George Harrison sur le merveilleux album All Things Must Pass de 1970, le premier album post-Beatles, d'un Beatle. Voilà, on en était, on avait fini avec Eupen Charleroi, Eupen Anderlecht.
Attention à ce que tu dis là.
Charleroi, il va en être question, il va être question d'ailleurs de trois matchs qu'on va traiter ensemble. Charleroi Malines, Moucron Genk et Ostende Courtrai. Un seul mot, abominable. Je parle du terrain. Il y a trois matchs qui se sont joués c'est même pas sous la neige. Ils ont commencé sous la neige. Ce que disait un joueur, c'est que parfois, il arrive qu'il neige en plein match. Et bon, le terrain, il est comme il est à la fin du match. Mais là, on a démarré sur des terrains qui étaient absolument affreux. Steve, tu faisais remarquer une chose, ils étaient affreux, certes, mais sans doute, ils ont été jugés pas impraticables.
Ah non, non, en fait, donc les trois arbitres doivent inspecter le terrain avant le match, et le critère, c'est de voir, c'est pas de voir s'il y a de la neige, c'est de savoir si le terrain est glissant, s'il y a du verglas. S'il n'y a pas de verglas, mais qu'on sait courir, et on sait courir dans la neige pour autant, évidemment.
Et que le ballon roule.
Que qu'on ne joue pas dans les Hauts-de-Fagne, mais à part Eupen, il n'y a pas de club dans les Hauts-de-Fagne. Le ballon roule, le match doit se jouer. Et donc, on considère que le terrain est praticable malgré le fait qu'il y a de la neige. Je rappelais hors antenne que, parce qu'on n'est plus tellement habitué à voir de la neige ces dernières années, mais... Tout qui regarde le foot depuis quelques années se rappelle de nombreux matchs en période hivernale où il y a toujours un peu de neige, il y a un ballon même orange.
Voilà, on sort le ballon orange. Ouais. Et là, effectivement, il y a eu le ballon orange et deux ballons jaunes dans les matchs. C'était la seule différence entre... Si vous vouliez pouvoir reconnaître à la télé, vu que tout était blanc, pour reconnaître le match avec le ballon orange, c'était celui de Charleroi. Oui, Henri.
Il faut voir sur quel terrain il neige. Parce que si le terrain au départ est déjà dans un état pitoyable...
Ouais. Si je pense que sur un synthétique, ça va.
Je pense qu'à Moucron, le terrain était pourri, même s'il n'est pas neigé. Quoi.
Pourri. Ils ont montré des images, je ne sais pas si vous avez vu, à environ 70e minute.
Le gardien,
la petite surface, le petit rectangle, c'était de la gadoue.
Dans le règlement, est-ce que l'arbitre n'a pas la possibilité de réévaluer son jugement après la détérioration de...
Je pense qu'en termes d'argent, si le match commence juste pour les droits télé, je pense qu'il faut le terminer.
Tu as un orage, par exemple, et que le terrain devient impraticable, l'arbitre peut suspendre ou arrêter définitivement le
match. Belgique-Tunisie, je ne sais pas si vous vous rappelez, un match amical.
Si, j'étais dans les tribunes, honnêtement, on a été blessés. Des grelons qui étaient proches de balles de tennis. C'était incroyable.
Oui, l'arbitre, effectivement, c'est lui qui décide si le match doit démarrer. Comme tu le dis, il peut, en cours de match, réévaluer, dire là, ça devient impraticable. C'est la même chose, par exemple, quand il y a du brouillard, parfois. Normalement, les arbitres, les deux assistants se placent dans la diagonale, chacun poteau de corner. S'ils ne peuvent pas se voir, on ne joue pas. Mais ça peut arriver.
C'est pas seulement pas praticable parce que, en termes de football, c'est parce que c'est dangereux pour les joueurs.
C'est ça, c'est dangereux.
Je pense que c'est le critère numéro un, c'est dangereux.
En tout cas,
après, il ne faut pas faire revenir les supporters, c'est déjà une chose.
Tu mets le doigt sur quelque chose et sur une réaction, celle de Genk, qui a décidé de poser une réclamation, arguant que Moucron n'avait pas pris les mesures nécessaires pour que le match se déroule dans de bonnes conditions. Alors j'ai regardé un petit peu les conditions, non pas dans lesquelles le match s'est déroulé, mais ils ont accepté de jouer sous réserve, conformément au terme de l'article B6-117 du règlement fédéral, qui prévoit la chose suivante: si le club visiteur estime que la surface de jeu est non conforme, elle peut soit refuser de jouer, soit jouer sous réserve. Dans ce cas, le club visiteur qui décide de jouer sous réserve en avertit l'arbitre, lui expose les motifs qui le poussent à penser que le terrain n'est pas praticable. Ça doit être fait au moins 20 minutes avant le début du match pour que l'arbitre puisse permettre des corrections qui permettraient de jouer le match dans des conditions normales. Là, évidemment, c'était pas possible vu que le terrain, en 20 minutes, il aurait eu le temps de rien faire. Et ensuite, à la suite de ça, le club qui a posé cette réserve doit suivre un processus normal, envoyer un formalisme particulier.
Il attendait de voir le résultat, surtout.
Voilà, en tout cas, ils ont posé... Et donc, l'instance fédérale décidera. Si la surface est effectivement jugée non conforme, la victoire sera... C'est un score de forfait, donc 0-3, qui sera donné en faveur de Genk. Si, évidemment, ils avaient refusé de jouer, c'est eux qui auraient perdu 0-3.
C'est pour ça, le fait qu'ils aient perdu, c'est évident que c'est... C'est dans ces conditions-là qu'ils vont porter plainte. Je veux dire, mais la plainte n'est pas justifiée. C'est pas parce qu'ils ont perdu que la plainte n'est pas justifiée.
Tout à fait. Oui, non, de toute façon, ils ont déposé leur plainte avant le match. C'est la règle. Ils sont obligés d'aller voir l'arbitre à 20 minutes avant le match. On émet des réserves.
D'accord.
Mais pour se permettre de... Après, voilà, ils y donnent suite ou pas. Effectivement, s'ils avaient gagné, je pense qu'ils n'auraient rien trouvé à redire. Ce qui est dommage, c'est que...
Est-ce que Moucron aurait pu se plaindre sur...
Non, parce qu'ils reçoivent. Donc, ils peuvent pas... C'est eux qui sont en charge de
non, mais ils peuvent estimer que le terrain est impraticable et pas être d'accord avec l'arbitre.
Oui, ils auraient pu... Dans ce cas-là, effectivement, c'est l'instance... Ils l'indiquent à l'arbitre. S'il refuse, par exemple, de jouer, ça doit pas être sur la base du même article. Parce que là, c'est la surface praticable. ou pas. Mais effectivement, oui, ici, ils auraient pu dire que c'était trop.
Donc, c'était dangereux. Voilà, c'est l'arbitre qui est souverain. Maintenant, c'est vrai qu'il aurait été, il aurait certainement été judicieux que l'Union belge donne des consignes particulières de rappel aux arbitres. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de vraies plages hivernales en Belgique. Et donc, on a tendance à un peu oublier. Et comme Henri le dit, le critère, c'est la sécurité des joueurs. Et si vraiment, il sentait qu'il y avait quelque chose qui ne les mettait pas à l'aise, il appartenait certainement à l'arbitre et il aurait été judicieux certainement de rappeler cette fonction à l'arbitre de bien vérifier avant le match. D'accord, ils l'ont peut-être fait en âme et conscience, hein, mais il y a un élément qui m'a marqué, je n'ai plus son nom en tête, Genk a fait jouer un Équatorien qui jouait son premier match en Belgique.
Et je pense qu'il a dû être...
Welcome.
Ouais, il a dû être... Eh ben, il n'a pas été ridicule, mais pauvre, mais il a dû voir
deux tacles qu'il a fait sous la neige, ça doit être...
Ah ouais, non,
mais d'accord, on doit faire attention à l'intégrité physique des joueurs, mais il faut aussi qu'on fasse attention à la qualité du jeu qu'on voit sur les terrains. Et ces trois matchs-là, c'était une qualité nulle.
Ouais,
alors
de
base, on n'a pas un bon championnat. Alors si en plus, on les envoie jouer sur des pelouses où il y a une neige de 5 cm, où toutes les passes, ils doivent obligés de faire carrément des tirs pour qu'elles arrivent à leur partenaire, il faut quand même qu'on prenne ça en compte aussi.
Ouais,
enfin, il faut qu'on vende un peu ce championnat, sinon on ne s'en sortira jamais. Et enfin, je veux dire, si on continue à jouer sur des terrains synthétiques ou sur des terrains où il y a de la neige, on ne va jamais s'en sortir.
Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait des joueurs de foot à la Fédé.
Ouais,
anciens joueurs.
Moi, je pense qu'ils sont peut-être d'accord avec vous à la Fédé, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reporté les matchs? Parce qu'en plus, c'était les matchs du samedi, donc on aurait pu se dire on peut les jouer dimanche.
C'est pour l'argent.
Mais c'est parce qu'on a une journée demain. Il y a déjà une journée demain. Donc du coup,
quel numéro cette fois-ci?
Normalement, c'est la 21, je crois. Mais donc c'était soit ils pouvaient pas décaler. Enfin, ils pouvaient pas. S'ils avaient décalé les matchs au dimanche, parce que là, pour le coup, ça ne gênait personne. Il y a pas de spectateurs à faire revenir. Les joueurs sont. On reste sur place. On peut toujours dire vous rejouez le lendemain. Je pense que vu qu'ils ont accès aux données météo, ils auraient pu savoir qu'il allait pas reneiger, qu'ils allaient avoir le temps de déneiger le terrain. Ça aurait pas été un beau terrain, un billard, mais au moins ça aurait pu être
sans
joué.
Sans ces critères-là, il y avait matière à remorter les matchs.
Mais je pense, c'est vraiment parce que dès demain soir, il y a d'ailleurs, on va parler de la journée, mais il y a une journée qui est allée sur trois jours, mardi, mercredi, jeudi. Et donc, si on ne pouvait pas jouer dimanche en reportant le match, ça veut dire le remettre à un autre moment et ça fait beaucoup d'incertitudes.
Voilà. Parce que du coup, il y a Charleroi qui joue demain soir contre Anderlecht et les deux jouaient vendredi.
Et exactement. Donc demain soir, on a une journée de championnat qui, à mon avis, fait que le report a pas été possible, ou alors ça renvoyait très loin.
La folie de ce calendrier.
Mais oui,
cette année, parce qu'on le sait bien. Enfin, c'est pas rare qu'en hiver des matchs doivent être reportés. Hein.
Mais oui, c'est ça. Normalement, c'est pris en compte.
Bon, on a eu 2-3 beaux hivers, mais normalement, ça arrive chaque année. Ouais. Chaque année où il y a des matchs qui doivent être reportés.
En tout cas, demain démarre une nouvelle journée, Anderlecht-Charleroi. Mercredi, on aura le Standard qui se déplacera à Malines. On aura également Antwerp contre le Cercle de Bruges. Le FC Bruges recevra Ostende dans un match de haut de tableau quand même, parce qu'Ostende, ils sont bien placés, Ostende 5e. Je vous fais un point sur le classement. Donc Bruges, on l'a dit, il s'envole. 7 points d'avance maintenant sur Genk, qui reste sur des défaites consécutives. 3e place. L'Antwerp, et c'est vrai que de la 3e à la 8e place, on se tient en 3 points. Et comme on l'a vu depuis pas mal de journées, c'est à qui perdra le moins, qui restera le plus constant. Et surtout, peut-être maintenant encore plus qu'avant, éviter les matchs nuls, parce que 2 matchs nuls, il vaut mieux gagner une fois que faire 2 matchs nuls. Vous voyez ce que je veux dire? Le partage des points, vu le nombre d'équipes concernées, puisqu'il y a 6 équipes qui se tiennent en 3 points, il faut pas se louper, il faut plus se louper, donc les duels vont être intéressants. On commence joué par Anderlecht Charleroi dès demain soir.
Mais tout le monde a tellement perdu.
Ouais.
Tout le monde a tellement perdu quand on regarde Anderlecht. Je regardais, je me suis dit, tiens, Anderlecht, ils ont encore perdu, mais ils sont encore là.
Ouais.
Ils sont là, ils sont 4-5e, mais le Standard qui revient après avoir fait un 0 sur 9. Et et Charleroi qui aussi perd 3 matchs d'affilée, qui est encore là. Tout le monde perd, donc c'est vraiment, oui.
Ça va être là aussi, ce sera une fin de championnat. Enfin, je dis là aussi, j'anticipe, puisqu'on parlera de l'Angleterre tout à l'heure, mais ça va être une fin de championnat passionnante.
Espérons.
Écoutez, la semaine prochaine, on aura 2 journées à débriefer. Ce sera sympa. Je crois qu'on va s'arrêter là pour la Belgique et on va passer à la rubrique suivante. Ah. La culture. Football, culture sport. va revenir de temps en temps sur des histoires qui sont un petit peu particulières, des choses qui sortent un peu du cadre habituel des matchs de football et du commentaire sportif pur. Et je voudrais vous parler d'une histoire qui est assez intéressante. Connaissez-vous l'histoire de la guerre des senteurs, messieurs? Non?
Non, eh bien, Sam, raconte-la nous.
Laissez-moi vous conter cette histoire. Le lieu, l'Amérique centrale, la date, juin 69. Depuis quelques mois déjà, les relations entre deux pays voisins d'Amérique centrale, le Salvador et le Honduras, se sont dégradées. Alors si le Salvador et le Honduras ont beaucoup de points communs, la même langue, les mêmes populations métissées, la même culture en somme, les conditions démographiques diffèrent largement. Le Salvador, c'est le plus petit pays d'Amérique centrale. Il est 5 fois plus petit que le Honduras, mais il compte 4 millions d'habitants, alors que le Honduras n'en compte que 3. Et on constate, depuis des décennies, bon nombre de Salvadoriens s'installent au Honduras. Pourquoi ? Pour des raisons économiques, des raisons politiques. Le Salvador est une oligarchie qui est aux mains de 14 familles de la bourgeoisie agrico-industrielle. Ils contrôlent en somme toute l'économie et pour éviter d'avoir à faire une réforme agricole, ils préfèrent chasser au maximum les Salvadoriens et donc ils les poussent à aller s'installer au Honduras, de sorte que les Salvadoriens qui vont au Honduras commencent à acquérir des terres, et qu'en juin 69, on compte pas moins de 300 000 agriculteurs salvadoriens qui exploitent des terres honduriennes. Donc même si vous n'êtes pas bon en mathématiques, vous aurez fait le calcul, 10% de la population du Honduras est composée de Salvadoriens qui exploitent la terre locale. Bon, mais en plus de cet afflux de population salvadorienne, il y a une domination économique du Salvador qui s'installe sur le Honduras. La situation au Honduras se dégrade, notamment avec l'arrivée au pouvoir de Osvaldo Arellano au terme d'élections truquées dans les années 60. L'économie salvadorienne est, elle, de plus en plus, est plus prospère que celle du Honduras, et la presse commence à parler de colonisation économique. Et comme les élections approchent, le pouvoir, dans une rhétorique xénophobe qui est somme toute assez classique, va accuser les Salvadoriens de tous les maux, et notamment donc de coloniser le Honduras. C'est le bouc émissaire, vous savez, ces maudits Salvadoriens qui viennent manger les bandas des Honduriens, les ficelles classiques en somme.
ouais, les ficelles. C'est sûr que tu n'as pas remplacé par quelque chose de moderne dans
le
noms.
Les bandas, ce sont des. on peut transposer ça à d'autres lieux et d'autres époques, c'est toujours la même chose. Plusieurs événements qui seront exploités politiquement par le pouvoir hondurien vont faire croître très fortement le sentiment anti-salvadorien au sein de la population hondurienne. Mais alors là, vous allez me dire, quel rapport avec le football ?
Oui, quel rapport avec le football ?
Eh bien, c'est dans ce contexte extrêmement tendu que, figurez-vous, que les deux équipes nationales doivent se rencontrer dans le cadre des éliminatoires, la Coupe du Monde 70 qui est prévue au Mexique. Le match aller a lieu le 8 juin 69 à Tegucigalpa, la capitale hondurienne. L'équipe salvadorienne va avoir droit à un accueil particulier. Des pneus incendiés sur le parcours du bus, des clous jetés sur la chaussée, puis le traditionnel concert de klaxons. Vous savez, dans l'hôtel, quand vous essayez de vous endormir, eh bien là, tout le monde vient klaxonner autour de l'hôtel des Salvadoriens, qui sont épuisés, particulièrement nerveux. Ils vont alors se répandre en insultes contre les Honduriens, et c'est donc dans cette ambiance électrique que le match va se jouer. Et c'est le Honduras qui va l'emporter. 1-0, grâce à un but marqué à la toute dernière minute de jeu. C'en est trop pour une supportrice du Salvador, qui va sauter la vie en se tirant une balle dans le cœur. Oui, on arrive à des extrémités terribles. Son corps est rapatrié au Salvador et un deuil national est même décrété. On imagine alors la tension dans laquelle va se dérouler le match retour. Une semaine plus tard, c'est au tour des Honduriens d'avoir droit à un accueil musclé. Leur hôtel est même incendié. Ils vont être eux-mêmes soumis au régime de privation de sommeil qu'ils ont infligé aux Salvadoriens à l'aller. Ils arrivent épuisés au stade. La rencontre a été placée sous la surveillance stricte de l'armée et le Salvador va l'emporter 3-0. S'ensuivent alors des échauffourées, dont sont notamment victimes bien sûr les supporters du Honduras qui ont fait le déplacement pour suivre leur équipe. Au total, on compte 2 morts. Les Honduriens réussissent malgré tout à rentrer au pays, mais la frontière est ensuite fermée entre les deux pays. Apprenant les faits, les Honduriens cherchent à se venger et s'en prennent bien sûr aux résidents salvadoriens du pays. Il y a des morts, des blessés. Au début, le gouvernement ne fait rien. pour empêcher toutes ces exactions avant que la violence ne vienne carrément paralyser la capitale pendant 2 jours. Seule la fatigue des émeutiers va mettre fin aux exactions. On pense donc maintenant que j'imagine que en bon amateur de football, vous aurez compris qu'une victoire 1-0, une victoire 3-0, le Salvador est qualifié pour le mondial mexicain. Eh bien non, car la règle du but à l'extérieur n'est pas en vigueur à l'époque. C'est donc un troisième match, un match d'appui devoir être disputé. La rencontre est prévue sur un terrain neutre à Mexico City le 26 juin. La période qui va précéder le match est on ne peut plus chaotique puisque les dirigeants des deux pays n'hésitent pas à remettre de l'huile sur le feu en appelant à la fierté nationale. L'activité économique des deux pays se ralentit jusqu'à quasiment cesser à l'approche du match. Ce match décisif se déroule dans une atmosphère d'émeute. Le Salvador l'emporte finalement 3-2, mais les violences ne cessent pas, bien au contraire, et cette haine va maintenant gagner les deux gouvernements. Dans les heures qui suivent le match, des accrochages ont lieu entre les armées à la frontière. Une guerre va-t-elle se déclencher ? Alors la tension est à son comble. Et un peu moins de 15 jours plus tard, le 14 juillet, la guerre commence officiellement. Le Salvador envahit le Honduras et s'enfonce clairement dans le territoire hondurien. L'aéroport de la capitale est bombardé. 3 jours plus tard, le Honduras bombarde la plus grande raffinerie du Salvador. Le conflit va quand même rapidement s'essouffler. Et dès le 19 juillet, plus aucun coup de feu n'est tiré. Mais les deux pays sont têtus. Il faut attendre le 3 août pour que le Salvador se retire des terres conquises. Et 1980 pour qu'un véritable traité de paix soit signé entre les deux pays. Le bilan de cette guerre, au moins de 3 à 6 000 morts, une quinzaine de milliers de blessés et environ 100 000 salvadoriens chassés du Honduras. Alors, je vous avais dit en introduction, est-ce que vous connaissez cette histoire de la guerre des senteurs et la guerre du football ? En Europe, on dit souvent, on parle de ce match et de cet épisode comme la guerre du football. Les historiens préfèrent nuancer les choses et réfutent cette appellation, préférant l'appellation de guerre des senteurs puisque c'est la durée de cette guerre. David Galindo de l'université José Delgado de San Salvador indique que si aucune partie de ballon n'avait eu lieu en ce mois de juin 69, une autre étincelle aurait très certainement permis de déclencher les hostilités entre les deux pays. Donc c'est pour ça qu'on préfère ne pas parler de guerre du football. Le terrain et le ballon n'ont été qu'un prétexte à cette affreuse histoire. C'est donc le Salvador qui se qualifie pour le mondial mexicain. Et vous allez me demander qu'est-ce qu'ils ont fait au mondial mexicain.
Qu'est-ce qu'ils ont fait au mondial mexicain ?
Eh bien, après sa victoire contre le Honduras, d'abord, le Salvador s'est défait de Haïti en finale des qualifications. La Coupe du Monde est donc dans leurs mains et ils vont se retrouver dans un groupe compliqué. Ils prennent 3-0 par la Belgique, 4-0 par le Mexique et 2-0 par l'URSS. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire...
Ça a changé le football.
Ouais, passionnante histoire. Ouais.
Voilà, une histoire
mais
qui...
Mais je ne la connaissais pas.
Voilà, non. C'est une...
Passionnant. Et alors, je retiens une chose, c'est que Blaise sait ce qu'il va regarder en rentrant chez lui aujourd'hui. Hein.
Voilà.
Fini le Iran-Maroc, on est parti pour du Honduras-Salvador.
Les 3 matchs.
Derrière les fagots, à mon avis, tu ne vas pas perdre ta soirée, toi.
On veut un rapport circonstancié la semaine prochaine.
Alors, ils ont joué en 5-3-2.
Ouais. Eh oui, voilà, écoutez, le football
belle
est...
Enfin, belle.
Voilà, en tout cas, la passion du football, alors encore une fois, hein, les universitaires sud-américains disent qu'il ne faut pas penser que c'est une histoire de ballon. Le ballon a été le prétexte à ça, il y avait des tensions trop fortes entre les deux pays depuis trop longtemps.
Oui, nous, ça nous intéresse parce qu'il y a du foot.
Et voilà, exactement, nous, ça nous intéresse parce qu'il y a du foot.
C'est la petite histoire dans la grande histoire,
voilà.
C'est toujours passionnant. Ça.
Et alors, une autre chose, une nouvelle cette fois-ci qui m'attriste un petit peu, qui va attrister peut-être aussi les fans, les amateurs de cinéma français. Ah. On a appris le décès de Jean-Pierre Bacri.
Terrible.
Cet acteur de 69 ans, qui était né en Algérie dans une famille juive, qui a joué dans de nombreux films à succès, Le Grand Pardon, Subway, Mes Meilleurs Copains, qui est un de mes films préférés, et il a joué aussi dans Didier. Et voilà.
Je pense que c'est j'ai regardé tout à l'heure parce que je savais pas trop quand il était sorti. Il est sorti un an après ma naissance et je pense que c'est le premier film de foot que j'ai vu de toute ma vie.
Bah, c'est...
Et sûrement un des meilleurs en fait.
Je vous propose allez, on va écouter un bout de la bande-annonce, si vous voulez, de ce film. Ceux qui l'ont vu s'en souviennent certainement avec plaisir.
Il est con ce chien, là.
Yam yam, Didier.
Bon, il est où ce con de chien, là, maintenant?
Il
peut pas rester là, votre ami, sur le palier.
Oui, oui, non, mais c'est pas mon ami, je...
Oui, oui, non, mais il gratte.
Mais pourquoi vous grattez? La seule explication, c'est comme les trucs bouddhistes. C'est une réincarnation, mais en super accéléré.
Jean-Pierre, c'est sûrement très clair pour toi, mais qu'est-ce qui se passe avec ce chien?
Appeler un chien Didier, c'est spécial.
D-I-D-I-E-R, mon chien.
C'est quoi comme origine, ça?
C'est un labrador.
Mais je vois pas pourquoi Didier serait plus spécial que Médor.
Ta blondasse, ça va?
Où est mon chien?
Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, à part Nichon?
Là, c'est donc aujourd'hui que tout le monde a décidé de me faire chier.
Oh! Mais en fait, un peu de calme, que ça va pas?
Arrête! Voilà, il est joueur.
Il est surtout con.
Il est dingue.
C'est ma tante.
Ça doit pas faire du bien, hein?
Ah, ça me fait des bonnes journées avec toi.
Mon chien, ça,
les pédés,
on s'éclate.
Mon chien, on ne sent pas le cul. On ne sent pas le cul des filles. Voilà. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle.
Yogata. Eh ouais, si elle demande, c'est différent. Didier, donc un film, comme le disait Blaise, qui aura réjoui les amateurs de football et de cinéma. On se souvient de. Il est plus fréquentable maintenant, mais il y avait Dieudonné qui jouait le rôle du commentateur du match, d'un match qui était très très drôle. Enfin voilà, c'était un bon film. Pardon, tu me disais.
Tu fais bien de le signaler.
Oui, on avait oublié cet épisode. J'avais oublié que je jouais dedans.
C'était furtif, mais c'était amusant. Écoutez, ben voilà, on a fait un petit tour culture. On va revenir à notre activité première, le commentaire de match, le débrief. Et si on passait à la Première Ligue, on avait un match au sommet. On était censé avoir un match au sommet Liverpool-Manchester United.
On s'est ennuyé. Hein.
On s'est ennuyé. Les deux équipes ont eu des occasions, mais on peut dire que Liverpool traîne la patte et qu'ils doivent leur sauvegarde. Ils doivent le fait de ne pas avoir perdu hier. Un très grand Alisson Becker qui a fait les parades qu'il fallait au bon moment.
En même temps, quand on voit leur défense, leur charnière centrale, Henderson, Fabinho, qui sont normalement leurs deux milieux récupérateurs, c'est assez inquiétant quand même en termes de blessures.
Van Dijk n'est pas remplacé facilement. Ouais.
Tu ne fais pas si bien dire. Moi, je joue à un jeu de simulation de fantasy football.
Je pense qu'on joue même.
Sur mon petit gazon, et je les ai tous les deux au milieu de terrain, et là, ils sont obligés de jouer en défense. Ça ne m'arrange pas du tout. non, et puis le trio d'attaque n'a pas été au top. Mané surtout, j'ai l'impression. Firmino non plus, ça coulissait pas aussi bien qu'avant. Solskjaer, le stratège mancunien, aura été très très...
Qu'est-ce qu'on peut dire
pour le moins. Ça a pas vraiment bien joué. C'était pas un match très enthousiasmant, mais
il a demandé à ces deux flèches entre guillemets, ouais. Rashford et Martial, de courir, et puis le reste, c'était un bloc défensif. Enfin, bon, Solskjaer quoi.
Moi, je suis assez désespéré. Je préfère préciser, je suis un fan de Manchester United depuis 25 ans, mais là, ils jouent tellement, je trouve, mal.
Et en plus, ils sont premiers. Voilà, en plus, ils sont premiers, c'est juste scandaleux.
Ce championnat, c'est exactement le même constat que ce qu'on a déjà fait. Tout le monde perd tellement de points. Les 5 premiers sont quoi? Entre 4 et 5 points?
Les 4 premiers, Manchester il y a 5 points entre les 6 premiers, sachant que Tottenham, 6e, avec 32 points, donc 5 points de retard. United a un match en moins, donc il peut vraiment y avoir. Et Manchester City est virtuellement premier, ils ont un match de retard et ils sont.
Alors qu'on les disait largués il y a trois semaines.
Et pas Solskjaer. Solskjaer il était sur la sellette.
Solskjaer, il a failli jouer son dernier match plein de fois et là il est en tête.
C'est un peu comme Zizou qui chaque semaine de jouer son dernier match.
Phoenix. Écoutez, on va s'attarder plutôt sur autre chose, donc sur Manchester City Crystal Palace. Et sur le délice d'action de Kevin De Bruyne, je ne sais pas si on peut encore, si on peut dire ce qu'on peut dire. Juste, je vais relater l'action pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il y a un corner quand vous regardez le but sur la droite, donc frappé extérieur du pied droit, enfin non, frappé sortant, mais de l'intérieur du pied droit par Kevin De Bruyne. La balle finalement ne donne rien, mais c'est un beau corner quand même. La balle revient sur Sterling qui rejoue sur Kevin De Bruyne, resté donc dans son coin. La balle, c'est une bonne passe de 35 mètres au moins, qui a de la puissance. Il va réaliser un contrôle intérieur du pied impeccable. Impeccable parce que le ballon reste juste devant son pied, ou en tout cas, il roule juste ce qu'il faut pour qu'il ait, sans faire quasiment aucun pas d'ajustement, il donne un centre extérieur du pied droit.
Le coup d'œil
est extraordinaire, la réalisation est fabuleuse, et comme on le disait tout à l'heure avec Henri, Stones la met au fond. C'est vrai que si Stones la met pas au fond, bon, l'action est fabuleuse, mais là, il y a une concrétisation directe. C'est un nouvel assist, le 100e assist de sa carrière avec Manchester City. Kevin De Bruyne, et on redit, c'est vrai, à chaque fois les mêmes choses. Mais
pour citer Guardiola, après le match, dit « Encore une fois, que puis-je ajouter ? Les managers peuvent aider et faire beaucoup de choses, mais s'il y a bien un truc qui appartient aux joueurs, c'est le talent. » Et je pense que...
En fait, on a même plus rien à dire. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise ?
C'est quoi ?
C'est un extraterrestre qui en plus est régulier.
Ouais, c'est voilà. Surtout ça, il y a le nombre aussi, c'est ça qui est impressionnant, parce que pour qu'il y ait 100 assists, il y ait 100 buts, donc il y a eu au moins 200 fois où ça, le même assist n'est pas rentré.
Ouais.
Donc il a des chiffres...
C'est stratosphérique. Ouais,
C'est qui ? C'est Mendy qui avait dit il y a que
De Bruyne qui
peut faire marquer.
Il a pas tort.
Lui avait dit la même chose.
Mais la question que je me posais après ce but, est-ce que finalement il est valorisé à son niveau ? Parce que oui, tout le monde le reconnaît comme étant, mais on a envie de dire qu'il aurait besoin ou il mériterait une consécration suprême, je sais pas laquelle.
Cette saison, je dirais que s'il y avait eu un Ballon d'Or et que City avait passé peut-être un tour de plus en Ligue des Champions, il était un candidat plus que crédible.
Il lui manque quelque chose à sa carrière.
En Angleterre, je pense que nous ici, on se rend pas compte à quel point ils sont admiratifs de ce joueur. Ça fait 2 ans maintenant qu'il est capitaine de Manchester City depuis que Vincent est parti en fait. Depuis que Kompany est parti.
Du respect pour l'entraîneur de Manchester.
T'as enfin trouvé ton club en Belgique. Maintenant, c'est clair pour tout le monde.
Non mais enfin, je veux dire, en Angleterre maintenant ils sont conscients qu'ils ont peut-être un des meilleurs milieux du monde dans leur championnat et ils lui rendent
ils ont le meilleur passeur, le meilleur milieu de terrain du monde, et je pense que c'est des styles différents, mais il vient se classer très 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 haut dans la hiérarchie des meilleurs passeurs de l'histoire du jeu.
J'aime bien dire cette phrase, j'ai déjà dit ici, celle que Doku a fait en commentaire quand il a marqué son premier but avec les Diables Rouges. Il a dit « Je pensais que Kevin ne m'avait pas vu, mais c'est Kevin ».
C'est Kevin, voilà.
c'est magique, c'est tellement ça.
C'est un coup d'œil
entre nous, on a tous un peu joué au foot, je pense. C'est pas extraordinairement technique. C'est pas qu'il fait une performance, une prouesse, machin. Il fait un contrôle magnifique, un extérieur du pied magnifique. Mais c'est
le fait de voir.
C'est le faire au bon moment, de le faire sous pression.
Là, on regarde tous en riz incrédule.
Ouais. Non, mais c'est le fait de faire.
Je sais pas ce que tu veux dire. On se réjouit de le voir sur le terrain.
Ce que je veux dire, qu'un joueur professionnel doit être capable de faire un extérieur du pied, capable de faire un contrôle. Lui, il le fait 100 fois. Et en arrivant au but,
il voit tout sur le terrain.
Et alors, le coup d'œil, quoi.
Moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est Toni Kroos, et je trouve qu'ils ont un peu le même style de jeu, et il me revient en tête maintenant, et c'est à peu près la même chose. C'était l'année dernière au match Real-Barça, où Vinicius attend sur son côté, à côté de Kroos, et Kroos lui fait avec la balle en main, un signe, prends ta ligne, et au final, Vinicius part et marque. Et je pense que c'est exactement la même chose, c'est que ce genre de joueur, en fait, il t'aide à prendre l'espace et à aller marquer, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui sont pas capables, par exemple, de voir ce que De Bruyne va leur faire comme passe, de voir la passe que va leur faire De Bruyne, et que donc ils vont rater un possible assist. Je pense que s'entraîner avec un joueur comme ça, tu grandis dans ta prise d'espace et dans les courses que tu vas faire.
Il fait aussi partie de ces joueurs dans ton équipe. Quand tu as la balle au pied, qu'il est dans ta zone, tu lui donnes.
Même
des petites passes. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, mais tu as évidemment Ronaldo, Messi, etc. Et Hazard quand il joue au football. Quand il joue au football. Je veux dire, mais il faut regarder le match, même dans les moments creux, il se déplace. Mm-hmm. S'il est dans ta zone, les gens lui donnent parce que c'est un bon investissement. Quoi.
Ah ouais, c'est...
Donc il délaisse. Il est intéressant aussi pour il fait jouer ses coéquipiers en provoquant l'appel, comme tu dis, mais aussi en les délestant parfois de situations complexes.
Ouais, il porte City. Enfin, il y a Gundogan qui joue très bien aussi en ce moment, et donc City vraiment est sur
il,
le.
Il lui
le
faut,
retour,
pour moi, il lui faut une consécration suprême parce qu'une telle régularité, ça se récompense. Mais c'est quand même relativement rare.
Il n'y aurait pas un euro cette année. si tout va bien, on ne sait pas.
Non, mais c'est vrai, parce que sur autant d'années, être à ce point constamment décisif.
En fait, c'est depuis qu'il est parti de Chelsea, depuis qu'il est, qu'il a été prêté à Wolfsburg, c'est ça. Depuis qu'il joue, il a été
s'il
constant.
S'il avait joué, c'est pas fait.
Oui, est-ce que tu sais citer une demi-année où il a été un peu en deçà?
Aucune.
Non, non, depuis.
C'est combien de joueurs ont ça à part les tout grands, les 2-3 dont on parle tout le temps?
Ouais, non, c'est vrai qu'il mérite une consécration. Un autre Belge qui performe, comme on dit, qui cartonne en ce moment, c'est Youri Tielemans, avec Leicester.
C'est au bon moment. Hein.
Ouais, ouais. On se posait la question la semaine dernière de savoir comment remplacer Witzel pour les Diables. Si...
C'est toi qui as voté pour Raskin ou pas sur le sondage?
Oui. Oui, pourquoi?
Bon, en tout cas, Tielemans...
Je mets en avant les prouesses, les prometteurs belges, c'est ma marque de fabrique, oui.
Il est en tout cas réjouissant aussi, Tielemans. Il porte son équipe de Leicester qui est surprenante. Enfin, on n'est plus surpris, on en avait parlé en début de saison, nous-mêmes, en se disant que c'était incroyable qu'une équipe comme ça réussisse encore à tenir le haut de la dragée haute aux autres équipes. Ils sont troisième, à égalité de points avec City, ils sont devant Liverpool, Tottenham, Everton. On souhaite à Youri Tielemans que ça se poursuive jusqu'à la fin de la saison.
Et Pratt s'est blessé. Hein.
Pratt s'est blessé, ouais.
Un peu dommage.
Ça marche pas très bien pour l'instant, lui.
Mais il devenait titulaire, ouais. Il était titulaire deux fois de suite, puis il se blesse.
Ouais. On n'espère pas d'autres mauvaises nouvelles.
Mais on est qu'en janvier, hein. La saison est encore longue, donc Tielemans, là, on se réjouit, mais évidemment, c'est tôt pour son pic de forme.
Ouais, ouais.
Mais bon, voilà, il faut pas calculer.
En Italie, on passe à l'Italie si vous le voulez bien. L'Inter de Lukaku a battu la Juve 2-0. Lukaku n'a pas marqué, mais alors je voudrais aborder, on va être rapide dessus parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, une actualité chaude. L'Inter va, selon la Gazzetta dello Sport, changer de blason, ça c'est une chose, et même changer de nom. Alors vous inquiétez pas, ça va pas être non plus les Lakers de Milan ou un truc comme ça. Le nom...
Coca-Cola quelque chose ?
Actuellement, non. Actuellement, c'est le Football Club Internazionale Milano. Pour des raisons... bon, personne ne l'appelle jamais comme ça, hein, d'accord. Mais pour des raisons visiblement marketing, les actuels actionnaires du club voudraient l'appeler maintenant Inter Milano. Tout simplement, le blason va être changé, on y verra sans doute un grand I, un grand M. C'est tout ça pour rendre le club plus international.
Ça se fait de plus en plus dans les clubs aujourd'hui.
Hein. Ouais, de changer les blasons, notamment.
Moi, j'étais triste parce qu'ils avaient abandonné le serpent.
Ouais.
Il y avait un petit logo avec un serpent.
Et là, ils vont même abandonner leur sponsor depuis 26 ans, c'était les pneus Pirelli. Et ça va être un promoteur chinois, le deuxième plus grand promoteur chinois qui va être affiché sur le maillot. Visiblement, on chercherait à vendre le club du côté des actionnaires chinois, donc ils essayent de rendre la mariée plus présentable peut-être avant de trouver l'acquéreur.
Rapidement, je ne sais pas si vous avez vu, en parlant de changement de nom, le club de Montréal qui s'appelle l'Impact Montréal, ouais, a changé de nom et va s'appeler Club de foot de Montréal.
C'est vrai.
Et c'est pas une blague.
Ah, ils sont incroyables.
C'est très canadien. Hein.
C'est très... Le seul endroit au monde où les panneaux stop ne portent pas le nom stop, mais arrêt. Il y a écrit arrêt.
Ils sont plus francophiles.
Ah, ils sont plus... C'est terrible. Je vous raconterai une belle. Un jour, en Italie, Naples a gagné 6-0, explosé la Fiorentina. Bonne nouvelle, Mertens était de retour, il a joué 17 minutes seulement. Il y avait
qui se repose.
Qui se repose, voilà, il peut rester au frais. La Lazio, dans le derby de Rome, l'a emporté 3-0. Et ce soir, Cagliari recevait l'AC Milan.
Il y a 1-0 pour Milan à l'instant.
Et qui a marqué ?
Enfin, pas là, Zlatan.
Et qui ?
Je l'ai dans mon jeu. Zlatan a marqué, et Zlatan, il va plus être tout seul. Bah, déjà, il en est à ça doit être son 12e but en 8 matchs, ou quelque chose comme ça. Puisque l'AC Milan prévoit la signature de Mario Mandzukic,
l'ancien dinosaure en attaque.
Ouais, là, ça va être les super papis en attaque. 34 ans, il va sur ses 35.
C'est 70 ans à eux deux.
Ouais, c'est plus de 70 ans à eux deux. Il sort d'une expérience ratée au Qatar où il a joué en un an et demi 7 matchs et marqué un seul but. Bon,
c'est dur ça quand même de jouer 7 matchs au Qatar.
Ça,
franchement,
ouais.
Normalement tu y vas pour être titulaire.
Ouais, c'est ça, quoi.
Ou alors c'était prévu pour lui. Allez, on va parler quelques minutes de la France, il nous reste 3 minutes. Bon, le PSG a gagné, a repris la tête du championnat, on ne sait pas très bien ce qui... Ça devrait... Je ne sais pas. Voilà.
Bah, c'est ce que je disais la semaine dernière, je pense que ça dépendra uniquement de Paris, le titre. Si voilà. Paris se foire, ça sera sûrement Lyon ou Lille, mais Lille, ils commencent un peu
Lyon
à perdre un peu.
Bah, Lille a gagné, là. Ils ont battu dans les arrêts de jeu, grâce enfin à Jonathan David, qui a marqué un but... qui est important puisqu'il rapporte 2 points de plus. C'était à 1-1. Lyon a perdu à la dernière minute contre Metz et donc lâche la première place.
But de Léa Iseka d'ailleurs.
Ouais, Léa Iseka a marqué. Et l'OM a été battu à domicile par Nîmes. Ça gronde un peu à l'OM. Les supporters sont... Où en est un peu l'OM ? Moi, j'ai l'impression que André Villas-Boas, il a perdu un peu la boule. Juste pour rappeler, cette semaine, en milieu de semaine, le PSG a battu l'OM lors du Trophée des Champions. Le PSG, honnêtement, a dominé le match.
Pourtant, moi, j'estime que c'était des trois matchs de Villas-Boas, j'estime que c'était le meilleur.
Sans doute, mais il a peut-être mal exprimé les choses. Il a dit, et il l'a répété,
ah oui,
la meilleure équipe a perdu.
Il a pété un plomb.
Et c'était gênant, même en plateau, quand ils ont récupéré l'antenne, ils étaient un peu gênés, ils ne savaient pas trop quoi dire. Je me demande si ce n'était pas une erreur de dire ça, parce que c'est bien de vouloir pousser ses joueurs, mais est-ce que ça n'a pas eu l'effet inverse là,
il a complètement pété un plomb en disant ça. Et apparemment, après le match contre Nîmes dans le vestiaire, il a dit à ses joueurs qu'il voulait partir. Le lendemain, il a été voir le président Jacques-Henri Hérault en lui disant que finalement, il se ravisait. Et Jacques-Henri Hérault, du coup, lundi, a pousser un bon coup de gueule en disant aux joueurs, qui principalement les grosses stars Thauvin et Payet, que s'ils voulaient partir, ils partaient quoi.
D'accord. Bon. Eh bien, il y a de l'ambiance à l'OM. On suivra ça dans les prochaines semaines. On vous remercie de nous avoir été fidèles, d'avoir été à l'écoute ce soir. Merci Steve. Merci Henri.
Merci Samuel.
Merci Blaise. On était ravis de passer cette heure et demie avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour jouer encore une fois une prolongation. Très bonne soirée à tous. Bye bye.
Au revoir.
Bye bye.
Vous l'avez dit.
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, mais surtout, vous êtes un salaud.